RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le 18-19 en Champagne, ce vendredi soir, un 18-19 où vous entendrez la voix de nos stagiaires Inès Elgaloussi, Medina Erich. Elles nous rejoindront dans quelques instants pour participer au journal régional de 18h30. Notre troisième stagiaire, Ilona Martin, a déjà pris place dans nos studios à nos côtés. Ilona, bonsoir.
Bonsoir à tous.
On attend également Jean-Pierre qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre, le temps de vous révéler le programme Israël-Hamas match nul pour la Cour pénale internationale. C'est l'objet de la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen. Un maire qui nous parle ce soir, Patrick Simon et l'édile de Bouleuse dans la Marne qui sera avec nous. On vous présentera aussi de beaux événements. Nous serons en duplex avec Christopher Fausten depuis le vignoble champenois pour faire un zoom sur la foire champenoise. On vous emmènera du côté du chœur Nicolas de Grigny à la basilique Saint-Remy. Le rendez-vous c'est jeudi prochain, le 30 mai à 20h. Jean-Marie Puissant présentera un concert tout à fait exceptionnel. Des nouvelles du diocèse de Reims et des Ardennes avec l'évêque auxiliaire Monseigneur Étienne Véteux, et puis Elodie Marchal et Étienne Touvenat. Nous parlerons des amis des orgues de Châlons en Champagne et notamment des concerts organisés pendant la période estivale. Voilà pour le sommaire de cette émission. Le vendredi, on commence par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et on va faire, si vous le voulez bien, aujourd'hui un zoom sur l'Israël et j'allais dire la catastrophe politique qui touche le pays actuellement.
Effectivement, la conduite de la guerre est tout à fait catastrophique et conduit à une dégringolade des positions politiques internationales d'Israël. Comme vous le savez, dès le mois de novembre, j'ai indiqué la victoire du Hamas, parce que pour une contre-insurrection, il faut enlever les civils, et après on peut massacrer. Mais si les civils ne sont pas enlevés, eh bien l'insurrection reste comme un poisson dans l'eau. Plus on tape dessus, plus on tue de civils, quels que soient les efforts qu'on fait pour en tuer le moins possible. Et de ce point de vue-là, initialement, manifestement, les Israéliens pensaient que les Égyptiens ouvriraient leurs frontières sur la pression des États-Unis permettant d'évacuer les civils. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas commencé par couper cette frontière, ce qui militairement était de loin le plus logique. À partir du moment où les Égyptiens ne prenaient pas les civils, les Israéliens n'avaient qu'un seul choix, à mon avis positif, c'est de les prendre eux-mêmes. C'est-à-dire de les mettre dans le Negev, voire même dans les kibbutz qui avaient été dévastés, d'indiquer à ce moment-là aux Égyptiens qu'ayant pris les femmes, les enfants, les vieillards, eh bien, ils rendent les armes, sinon on les massacre. Ce qui aurait été très difficile pour les Égyptiens de ne pas suivre. Mais sous la pression de son extrême droite, Netanyahou n'a pas voulu de cette solution, qui en plus avait l'inconvénient pour lui de mettre le doigt dans l'engrenage d'une solution à un seul État, à l'État binational, fédéral, mais à un seul État, à partir du moment où on met pas mal de Palestiniens sur le territoire israélien, même si c'est temporaire. Et les choses se déroulent, hélas, comme prévisible, c'est-à-dire que le Hamas n'a pas pu être éradiqué, n'a pas pu être coupé de la population civile dont il reprend le contrôle comme un État totalitaire islamiste tout à fait déplaisant, qui utilise tous les moyens de violence, bien sûr. Et de ce point de vue-là, on ne voit pas de solution immédiate. Netanyahu a probablement compris l'évolution des choses et il lui faut la tête de Simoar, de Yahya Simoar, pour prétendre qu'il a gagné la guerre. Je pense que le Hamas de l'extérieur ne serait pas mécontent de la lui donner, mais en la vendant le plus cher possible et le plus tard possible. Et là-dessus, une étape significative de dégringolade est l'affaire de la CPI. Les Israéliens avaient transmis depuis longtemps un dossier à la CPI pour faire inculper le Hamas pour l'action pogromiste du 7 octobre. La Cour pénale internationale, du moins son procureur, ne s'est pas pressée et justement a choisi, un dos à dos, a choisi d'inculper, de demander l'inculpation aussi bien du Hamas que de Netanyahou et du chef d'état-major. C'est une position inadmissible parce qu'on ne peut pas mettre en parallèle une agression terroriste sur des civils et la riposte militaire, même si elle n'est pas mesurée. Parce qu'à cette échelle-là, on ne voit pas pourquoi Zelensky ne serait pas traduit devant la CPI en même temps que Poutine, puisqu'il a choisi d'attaquer, y compris en Fédération de Russie, y compris avec des missiles à fragmentation, et qu'il tue effectivement des civils. Alors, vous me direz, il le fait pas exprès, mais il en tue le moins possible. Mais c'est exactement ce que raconte Poutine. Et puis, c'est pas une question de nombre. Donc, en fait, la seule argumentation qui justifie que Zelensky ne soit pas devant la CPI en même temps que Poutine, c'est que c'est l'autre qui a commencé. Poutine est clairement l'agresseur. Et donc, même si Zelensky utilise des moyens qui peuvent être discutables, et avec une guerre qui de toute façon comporte des bavures, parce que la guerre propre, ça n'existe pas, on se retrouve dans une situation qui est en fait très parallèle de la situation Netanyahou contre le Hamas. Quelles que soient les erreurs sur la conduite de la guerre de Netanyahou, Israël est clairement l'agressé. Et si on commence à ce stade-là, on voit une coupure dans les pays européens, certains comme l'Espagne soutenant cette attitude du dos à dos, la France prenant une, au contraire de l'Allemagne qui soutient résolument Israël, et la France ayant une attitude ambiguë. Le premier communiqué du Quai d'Orsay était assez déplorable. Mais on soutient la CPI, mais pas. Et puis maintenant, l'attitude est qu'on soutient la CPI, mais pas forcément les mesures que propose le procureur. Donc c'est quand même un signe de dégradation de la position israélienne qui est assez nette. Et les choses ne peuvent que continuer. Si la situation se gèle en l'état, avec des destructions colossales, le Hamas va continuer à contrôler la population palestinienne qui a beaucoup souffert à Gaza. Si les Israéliens poursuivent, eh bien, ça va poursuivre les destructions d'une part, ça va poursuivre également l'emprise politique du Hamas par les morts civiles qui vont continuer à croître. Et on va déjà avoir un effet à court terme de cette position de la CPI. C'est une pression dans la société israélienne pour dire, de toute façon, puisqu'on est tout seul, et que les mesures qu'on prend pour essayer d'épargner le maximum de civils ne sont pas considérés convenablement, eh bien, c'est pas la peine qu'on perde des soldats à prendre des précautions, on peut taper plus fort. Et j'ai peur que ce soit ce qui se produise, sous la réserve néanmoins de la pression américaine qui là est salutaire, car Biden a intérêt à ce qu'il ne se passe pas trop de choses qui puissent conduire une partie de l'opinion américaine à se réfugier dans l'abstention, c'est-à-dire dans le fait de ne pas voter ni pour les républicains ni pour les démocrates, ce qui commence déjà à représenter plus d'une dizaine ou une quinzaine de pourcents, ce qui est très considérable par rapport à d'habitude. Donc vous voyez que malheureusement les sauges s'enchaînent comme aux échecs après une ouverture ratée, et il n'y a pas beaucoup de solutions pour Netanyahou maintenant, à moins que de, si j'ose dire, de renverser l'échiquier en décidant maintenant les mesures qu'il n'a pas prises au début. Elles auront moins d'impact que s'il les avait prises au début, d'accueillir les civils. Mais finalement, ça pourrait être quand même salutaire pour restaurer son image et arriver à éviter cette attitude catastrophique qui est, au fond, c'est pareil. Le massacre du 7 octobre, il renvoie à suite d'Er Yassine en 48, pour les massacres de Palestiniens, et dans l'autre sens, Israël répond qu'en 1930, à Hébron, il y a eu un pogrom faisant 70 morts, et on peut remonter comme ça, hélas, pendant longtemps. Cette affaire de la CPI n'est que le symptôme d'une étape de la dégradation du rapport de force international israélien à partir d'une erreur majeure sur la façon de répondre après le pogrom du 7 octobre.
Eh bien, un grand merci, professeur Jacques Cohen, de nous avoir éclairé, hein, évidemment, sur ces différents conflits et comment gérer cette politique internationale. On imagine qu'il y aura d'autres événements qui seront davantage développés sur votre blog, jhmcohen.com, ça sera d'ici quelques jours. Nous, on vous dit à très bientôt, a priori, la semaine prochaine, professeur.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h20 sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, le magazine régional. Un maire qui vous parle, Jean-Pierre, avec qui êtes-vous ce soir?
Et notre maire aujourd'hui est Patrick Simon, il est maire de Bouleuse dans le département de la Marne. Patrick Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune de Bouleuse? Combien d'habitants à Bouleuse?
Alors 230 habitants, on va dire, avec les derniers qui vont arriver. C'est une commune qui se développe tranquillement. On n'a pas souhaité avoir une extension massive. D'ailleurs, bon, je vous expliquerai, chemin faisant, je pense, pendant l'interview, les difficultés liées au PLU.
Plan local d'urbanisme.
Plan local d'urbanisme, oui. qui va devenir intercommunal.
D'accord.
Et pour le coup, ce plan local d'urbanisme, bon, il génère, au travers des lois gouvernementales aussi, un certain nombre de restrictions dont on aura sans doute l'occasion de parler. Mais pour le coup, on a un développement tranquille, quoi. L'idée, c'est de pas dégager des dizaines de terrains d'un seul coup, parce qu'il faut que les infrastructures suivent. Et malheureusement, les finances des communes rurales ne sont pas forcément au rendez-vous pour ce genre de travaux.
Alors vous, Patrick Simon, comment êtes-vous devenu maire? Vous étiez déjà toujours intéressé par le monde associatif, par les responsabilités? Vous étiez au conseil municipal?
Alors pas du tout, hein, c'est pas dans mon ADN. En fait, si vous voulez, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, moi, dans l'électricité. J'ai travaillé pendant presque 38 ans au sein de DFGDF. Puis en 2013, je travaillais sur Paris, j'avais un poste assez prégnant et donc j'ai décidé de changer un peu, d'orienter ma carrière autrement. Et j'ai créé une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vous voyez, j'étais pas du tout tourné vers... les communes, enfin...
Mais on a fait appel à vous, on est venu vers vous pour que vous soyez maire.
Absolument, en fait, quand le maire en place a su que je quittais mes fonctions et que je créais une société plutôt dans le coin, il est venu me voir pour savoir si ça m'intéresserait d'accompagner la commune pour essayer de travailler un petit peu avec lui.
Patrick...
Sauf que, donc je suis arrivé sur la pointe des pieds en 2014 en me disant je vais être conseiller municipal et puis je vais voir comment ça se passe, mais je me suis retrouvé déjà premier adjoint à ce moment-là, donc j'ai fait un mandat en tant que premier adjoint et puis en 2020...
Et puis vous êtes devenu maire en 2020.
Je suis devenu maire, donc l'idée c'est aussi la relation aux autres qui m'intéressait, vous voyez, le sentiment de pouvoir un peu servir...
Être au service.
Améliorer le quotidien de nos habitants.
Alors,
Surtout, je voulais faire évoluer la commune, mais ça, on pourra en parler.
Comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui? Le type d'activité? Les habitants, des personnes âgées, en retraite, des agriculteurs, des jeunes qui s'installent? C'est quoi Bouleuse aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, Bouleuse, effectivement, c'est une commune où, comme beaucoup de communes rurales, il y a un certain nombre de retraités. Mais au travers, je vous dis, les terrains à bâtir qu'on a lâchés en mode un peu diffus, on a réussi à faire revenir... des jeunes sur Bouleuse en fait. Et donc aujourd'hui c'est une population qui rajeunit, quoi. On a quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et on a une 30-35 enfants à peu près dans la commune, ce qui crée un peu d'animation.
Alors vous avez une école? Non, vous n'avez pas d'école.
Alors non, on est rattaché à un groupe scolaire, hein, juste à côté de Bouleuse, hein, le groupe scolaire de Favrol. Et du coup nos plus petits vont à l'école sur ce groupe scolaire. Ensuite le collège en fait c'est que... Et puis après, le lycée, c'est des lycées.
Alors, est-ce que vous avez senti, puisque vous êtes arrivé au moment du Covid, qu'il y avait une demande, parce que les logements, les maisons sont quand même moins chers qu'à Reims, des jeunes qui disent, si on a un petit jardin, si on a quand même, si on est, j'allais dire, comme on dit, un peu familièrement à l'air, on sera mieux quand même dans une commune rurale. Il y a des demandes dans ce sens?
Oui. Le Covid a changé effectivement un peu la donne, et c'est aussi en ça que les communes doivent se moderniser. C'est que, alors, c'est fait aujourd'hui presque partout, mais si on remonte il y a 3-4 ans, par exemple, ici à Bouleuse, il n'y avait pas la fibre. Une des principales motivations des gens pour venir habiter à la campagne, et qui plus est maintenant avec le travail à domicile, puisque aujourd'hui le télétravail est quand même particulièrement développé, donc pas question de télétravail sans avoir un réseau... Internet qui fonctionne bien, quoi. Donc alors, en fait, ça, c'est vraiment des travaux que moi j'ai tenu à mettre en place le plus rapidement possible. Et effectivement, ça a du coup attiré des jeunes couples qui voulaient se sortir un peu des villes, qui cherchaient des terrains. Alors, les terrains, effectivement, sont pas chers à Bouleuse, parce que les propriétaires de ces terrains ne souhaitent pas avoir des prix extrêmement élevés, justement pour contribuer à l'essor de la commune. Quoi.
Alors justement, le temps passe très vite avec vous, oui. Patrick Simon, pour aborder les sujets. Juste une petite question, maintenant c'est les communautés de communes, maintenant c'est le Grand Reims. Est-ce que le maire est toujours un peu, entre guillemets, le patron de la commune? Vous connaissez tout le monde à Bouleuse.
Oui. Alors... Si vous voulez, moi je me suis pas positionné comme maire, comme étant un patron. Et c'est pour ça qu'effectivement, je sais que certains de mes confrères se disent qu'ils ont perdu plein de pouvoir. Vous savez, dans nos communes rurales, les possibilités financières ne sont pas
infinies,
quoi. Mmh. Eh ben oui. Donc pour le coup, être dans une communauté de communes, et notamment le Grand Reims, ça m'a permis quand même de passer des dossiers extrêmement importants qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans être intégré dans une communauté.
Alors, avez-vous justement, je vous interromps un peu, parce que le temps passe très vite, Patrick Simon, avez-vous des projets en cours, à moyen ou à long terme, pour la commune? On imagine la voirie, on imagine peut-être d'autres sujets.
Voilà, alors effectivement, on vient de terminer des gros travaux. J'ai réussi à faire passer le dossier d'assainissement collectif, qu'on appelle pompeusement tout à l'égout, hein, dans une petite commune rurale. On a fait des travaux de renouvellement d'eau potable, parce que le rendement du réseau était plus que médiocre et il y avait des fuites partout. Donc, par les temps qui courent, c'est bien aussi de pouvoir faire des économies. J'ai fait refaire de la voirie également. J'ai fait de l'enfouissement de réseau également. J'ai fait amener la fibre dernièrement. Et on a remplacé presque la moitié dans la commune tout l'éclairage public par des LED. Paradoxalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour gagner de l'argent, à terme, il faut investir aujourd'hui. Quand des ouvrages sont trop vieux, si on prend le cas pour l'eau par exemple, bah, s'il y a des fuites partout, c'est pas en vous appuyant sur un réseau d'eau vieillissant que vous allez...
Et certains maires nous disent, Patrick Simon, par exemple, quand vous poserez du goudron. Autrefois, on mettait dans un village du goudron, sur la route, les trottoirs, on s'en fichait un petit peu. Maintenant, il y a l'environnement, il y a le développement durable. Vous essayez quand même peut-être de mettre des plantes, de la végétation. Ces jeunes couples qui viennent, ils sont attachés aussi à tout ça maintenant. C'est très important.
Ils sont très attachés à tout ça. Alors, on travaille, si vous voulez, moi, dans la commune, j'ai réparti correctement les charges. Si vous voulez, je ne travaille pas tout seul, on est une équipe assez dynamique. Alors moi, je m'occupe, vous l'aurez compris, du développement communal, des perspectives d'avenir et de tout ce qui pourra ramener de la population à Boulouse. Mais mon premier adjoint, lui, gère tout ce qui est opérationnel et s'occupe de notre ouvrier communal. Et on a un deuxième adjoint qui s'occupe de toute la partie environnement. Et on est dans le parc régional de la Montagne de Reims.
Ce que je vous propose, Patrick Simon, on n'a pas le temps, puisque l'émission s'achève dans moins d'une minute, c'est de nous donner un autre rendez-vous dans quelques semaines pour que vous prolongiez votre réflexion. Simplement, la question qu'on pose à tous les maires, tous les jours, on a un maire d'une commune, et la même question pour terminer, Patrick Simon, est-ce que vous êtes un maire heureux ?
Alors, heureux, je ne sais pas si c'est le terme qui convient vraiment, parce que on est quand même assez contraint dans ce type de...
Il y a toujours des gens qui rouspètent dans une commune. Il y a aussi des gens qui vous encouragent. Alors l'un dans l'autre, bon, c'est la vie, ça.
Écoutez, non, j'ai la chance dans ma commune d'avoir des habitants qui sont très, très, très sympathiques.
Comment
très
s'appellent les habitants de Bouleuse, Patrick Simon ?
Les Bouleusiens.
Et les Bouleusiennes et les Bouleusiens, ils vous rendent heureux comme maire quand même. Vous êtes content.
Ils sont très sympas. On a fait 2 ans de travaux, là, je peux vous dire qu'ils ont... Ils ont été très, très sympas. Ils ont accepté les choses. Ils ont bien vu qu'on développait le village également. Mais, vous savez, heureux, c'est pourquoi pas. Mais en fait, je suis surtout content de pouvoir représenter nos habitants.
C'est déjà pas mal. Hein. Merci en tout cas.
Surtout de défendre la position et le développement du village. C'est ça ma principale préoccupation.
Merci en tout cas, Patrick Simon, maire de Bouleuse. Merci d'avoir été avec nous. On vous remercie d'avoir été sur RCF aujourd'hui. Et à très, très bientôt. Au revoir.
Je vous en prie. Merci à vous.
Le 18-19 sur RCF.
On a pris un petit peu d'avance par rapport à nos habitudes du magazine régional, alors je vous propose une petite pastille musicale avec Jean-Marie Puissant qui présente un concert exceptionnel au micro de Jean-Pierre Benoît.
Jean-Marie Puissant, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Le chef de chœur de Nicolas de Grigny, inutile de présenter cet ensemble, car dans quelques jours, ce sera le jeudi 30 mai à la Basilique Saint-Remy à 20h, il y a un grand rendez-vous, un rendez-vous exceptionnel. De quoi s'agit-il, Jean-Marie Puissant ?
Ben, c'est un grand concert avec des œuvres de Mozart, en particulier la Grande Messe en ut mineur, qui est un des chefs-d'œuvre, sinon le chef-d'œuvre de Mozart. C'est une très grande messe qui est pourtant inachevée, mais dont la qualité est vraiment exceptionnelle. Et puis en première partie, je dirigeais le concerto numéro 3 pour violon et orchestre, avec une soliste exceptionnelle aussi, Elsa Gretter, qui est une violoniste très connue dans la région et qui fait une belle carrière internationale.
Alors parmi les participants, on peut dire les acteurs de ce concert, il y a bien évidemment le chœur Nicolas de Grigny.
Oui, bien sûr, le chœur Nicolas de Grigny sera là, donc au grand complet. Et puis il sera donc accompagné par l'orchestre Champardenne, dont le directeur est Loïc Olivier, et il y aura les solistes qui sont les solistes issus de l'ensemble Allegri, donc que je dirige aussi depuis quelques années, donc avec Adum Tung, avec Simona Caressa, avec Mathieu Justine et Stéphane Gonda, donc 4 solistes pour faire toutes ces parties solistes de la Grande Messe en ut mineur.
Mozart à la Basilique Saint-Remy, ça c'est formidable.
Alors, cette acoustique magnifique dans ce lieu fantastique, ce sera un grand moment et très agréable, autant pour les artistes que pour les spectateurs, je pense.
Merci Jean-Marie Puissant d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RCF.
On peut réserver sur lecoeurnicolasdegrigny.fr, sur le site.
Merci Jean-Marie Puissant d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF.
Merci Jean-Marie Puissant, merci Jean-Pierre. Cette fois, la pendule flirte avec 18h30, le journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 24 mai 2024, la ville de Châlons-en-Champagne lancera ce samedi 4 pattes en fête, une opération qui célébrera les animaux de compagnie tout en rappelant quelques règles de civisme. Explication. Les confirmations s'enchaînent dans nos diocèses, témoignage de Léon, élève au lycée Saint-Joseph de Reims, qui sera confirmé demain dans le diocèse de Reims et les Ardennes.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Sensible au bien-être animal et au civisme des humains, la municipalité de Châlons-en-Champagne installera ce samedi 25 mai au Grand Jard l'opération 4 pattes en fête. Pour Christophe Guillemot, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et du bien-être animal, cet événement est né de plusieurs besoins.
C'est une opération qui concerne en fait l'animal dans la ville et on voulait au travers de cet événement, un, rappeler les droits, les devoirs qu'ont les propriétaires d'animaux dans un milieu urbain. On voulait également répondre à un deuxième besoin, c'était aussi de créer un lien entre les propriétaires d'animaux et la collectivité. Un troisième objectif qui est de donner une visibilité à l'écosystème qui fonctionne autour d'infrastructures et de professionnels de l'animal. Et puis un quatrième moment, c'est un besoin également de passer un bon moment. L'été revient, les gens refréquentent à nouveau les espaces publics. Les espaces publics, c'est aussi les endroits où on a des animaux. Et l'objectif de cette journée, c'est aussi de passer un bon moment, découvrir finalement toute la richesse que l'on a autour de nos amis les bêtes.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Près de 20 partenaires seront présents afin de présenter leur métier, notamment l'association chalonnaise de protection animale qui gère le refuge de Fanières. De plus, la ville présentera les aspects juridiques des droits et devoirs d'un détenteur d'animal et un sondage pour un parc à chiens à Châlons-en-Champagne. Valérie Hayé, candidate Renaissance aux élections européennes, était à Reims cet après-midi. Elle a d'abord déjeuné avec les élus avant de se rendre au point écoute des jeunes de la ville de Reims. Elle a ensuite visité la coopérative vinicole de Sermier avant de déambuler dans le centre-ville de Reims. D'ici quelques minutes, elle participe à une réunion publique à 19h à l'Atrium en présence d'Arnaud Robinet, maire de Reims, et de Catherine Vautrin, l'actuelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, a profité d'être dans la Marne aujourd'hui pour rencontrer les compagnons du devoir à Mouison cet après-midi. Nombreux sont les jeunes adultes de notre diocèse à être confirmés aux alentours de la Pentecôte. Si la plupart ont eu lieu le week-end dernier, d'autres ont encore lieu ce week-end, comme pour les élèves de Saint-Joseph à Reims. Léon Rigobert fait partie de cela et témoigne de ce que représente le sacrement de confirmation pour lui.
Pour moi, le sacrement de la confirmation, ça représente vraiment une décision personnelle. C'est-à-dire que le baptême, c'est souvent un choix qu'on n'a pas fait, qui vient de nos parents, de notre famille. La première communion, c'est aussi quand on est encore un peu petit, où on n'a pas forcément toutes nos réflexions sur ce sujet-là. Et la confirmation, ça permet vraiment de dire « oui, je crois en Dieu » avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Et c'est ça pour moi la confirmation et ce que ça représente.
Se préparer à la confirmation, une démarche en plusieurs étapes que nous explique Léon.
Dans mon cas, ça s'est fait via le lycée, mais sinon on peut s'inscrire via au diocèse et aller avec votre prêtre lui en parler. Et effectivement, il y aura une lettre à rédiger pour Monseigneur quelques mois avant la confirmation pour dire pourquoi on se confirme, là où on en est dans notre parcours de foi. On lui envoie cette lettre, il nous la renvoie avec des commentaires sur ce qu'on a marqué. C'est pas très compliqué de se préparer à la confirmation, c'est juste de la motivation et de l'envie. Tout au long de l'année, en fait, on va voir vraiment tous les symboles. Parce que moi, j'avais du coup toutes les semaines une heure le mardi soir de 18h à 19h avec une personne qui vient bénévolement au lycée pour nous donner son expérience et nous aider à avancer dans notre foi et à nous faire des bonnes réflexions pour qu'on puisse avancer dans ce parcours. Et on va, par exemple, au moment de Noël, découvrir un peu, enfin, redécouvrir vraiment tous les symboles, plus les approfondir. Et vraiment, chez les bénédictines, du coup, on a vraiment revu tout l'Esprit Saint, qui est quand même la base de la confirmation. Et ça a permis, par exemple, pour chez les bénédictines, de vraiment se recentrer sur soi-même. Le fait est qu'on y est même allé de Reims à Saint-Thierry à pied pour faire une marche, commencer directement à rentrer profondément dans nous, aller en dehors du monde qui nous entoure.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes lors de ces temps forts, comme sur les antennes de RCF, la joie se partage. Focus rapide sur l'agenda du week-end désormais avec Inès Elgaloussi.
Samedi et dimanche, vous pourrez profiter des fêtes joanniques qui reviennent à Reims. Les festivités auront lieu autour de la cathédrale et de la basilique Saint-Rémy de 11h à 19h. C'est l'occasion pour vous de faire un retour à l'époque médiévale pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Lors des festivités, vous pourrez profiter des marchés médiévaux qui accueilleront 120 stands ainsi que des animations variées telles qu'un concert, un spectacle de rapaces ou bien une parade. Environ 100 000 personnes sont attendues pour participer aux animations. Ainsi, vous avez la possibilité d'en faire partie. Le cirque Arlette Grus est de retour à Reims aujourd'hui jusqu'à dimanche. Après 7 ans d'absence, ce sont 35 artistes qui se succéderont sur la piste durant 2 heures pour un total de 14 numéros. Ne loupez pas son grand retour. Toutefois, le cirque Arlette Grus pointera le bout de son nez l'an prochain pour présenter sa tournée d'anniversaire de 40 ans. La Petite Halle organise dimanche la deuxième édition de son Slow Market. Vous avez l'opportunité toute la journée de 11h à 18h de retrouver une brocante, friperie et vide dressing pour retrouver les meilleures pièces. Sur ces beaux événements de prévu, je vous souhaite un agréable week-end.
Merci Inès, on rappelle que lors des fêtes joanniques, à l'initiative de l'équipe de l'espace missionnaire Reims Sud, différents ateliers sont organisés samedi et dimanche à la basilique Saint-Rémy. Par ailleurs, à Châlons-en-Champagne, la ville propose ce dimanche 26 mai au Forum de la Vallée-Saint-Pierre de nombreuses animations à l'occasion du 36e Fénestival. Cette manifestation pluridisciplinaire rassemble plus de 3000 spectateurs chaque année autour de compagnies et de groupes professionnels et amateurs. Elle bénéficie du soutien des associations, des habitants du quartier et des partenaires privés. Toutes les animations proposées sont gratuites. Du sport, côté terrain, il n'y a pas de match ce week-end, mais ça s'active en coulisses, notamment du côté des Flammes Carolo, pour construire le roster de la saison 2024-2025. Après 17 années passées à Charleville-Mézières, l'emblématique meneuse et capitaine Amel Boudera est arrivée au terme de son contrat, mais elle rempile pour une 18e saison. Ça sera sa dernière en tant que joueuse professionnelle. On regarde du côté du ciel avec Medina Erich. Bonsoir Médina, quelles sont les tendances pour ce samedi et ce dimanche en Champagne-Ardenne ?
Bonsoir Alexis. Ce soir dans les Ardennes, la soirée sera nuageuse avec des températures autour de 10 degrés à Vouziers, 11 degrés à Charleville-Mézières et 13 degrés à Rethel. Pour la Marne, le ciel sera également nuageux. Les températures atteindront 13 degrés à Reims et Épernay, 12 degrés à Châlons-en-Champagne et 11 degrés à Sézanne. En Haute-Marne, la nuit sera claire à Saint-Dizier avec une température de 11 degrés. Dans l'Aube, quelques éclaircies sont prévues avec des températures allant de 10 degrés à Arcis-sur-Aube, 11 degrés à Romilly-sur-Seine, jusqu'à 12 degrés à Troyes et Bar-sur-Seine. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à toutes les Sophies. Continuons avec la météo de ce week-end. Samedi, dans les Ardennes, la journée commencera sous le soleil avec des températures matinales de 12 degrés. L'après-midi, le thermomètre atteindra 18 degrés avec un grand soleil, mais des averses sont attendues dans l'ouest du département. Dans la Marne, les températures seront de 13 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Le soleil fera son apparition, mais des épisodes de pluie sont également prévus. En Haute-Marne, les températures varieront de 12 degrés le matin à 19 degrés l'après-midi. Le soleil sera présent, mais la pluie s'invitera aussi dans la journée. Dans l'Aube, le jour se lèvera avec 11 degrés et l'après-midi atteindra 20 degrés. Le soleil sera de la partie. Dimanche, les Ardennes connaîtront des températures matinales de 14 degrés et atteindront 19 degrés l'après-midi, accompagnées de pluie. Dans la Marne, la Haute-Marne et l'Aube, nous nous réveillerons par un agréable 15 degrés qui augmentera légèrement autour des 21 degrés dans l'après-midi. Ce dimanche, nous souhaiterons la Sainte Trinité et nous profitons de cette occasion pour souhaiter une joyeuse fête à toutes nos merveilleuses mamans.
Merci Médina, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Le magazine régional avec tous nos stagiaires à la rédaction. Ilona est avec nous en studio jusqu'à 19h. Ilona, ça va toujours ?
Oui, toujours.
Ce week-end, il devrait faire beau. On vient de l'entendre dans les tendances météo de Médina il y a quelques instants. Vous, les foires, c'est quelque chose que vous aimez ? Vous aimez bien aller vous balader en famille, entre amis, passer un bon moment ?
Oui, pourquoi pas ? Surtout quand le beau temps est au rendez-vous, oui.
Eh bien, pourquoi pas? Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver Christopher Fausten en duplex depuis la première foire champenoise qui a ouvert ses portes ce matin aux alentours de 10h. Un rendez-vous qui va se poursuivre jusqu'à dimanche soir au cœur du vignoble champenois. Christopher, bonjour!
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et oui, nous sommes au parc du château de Dormans, situé entre Épernay et Château-Thierry, pour cette toute première foire champenoise, un événement qui va se poursuivre jusqu'à dimanche soir.
Comment ça s'est passé ce premier jour de foire ?
Eh bien écoutez, pas trop mal, quoique peut-être que vous entendez en fond la pluie qui a fait son apparition depuis quelques heures. Alors pourtant la journée a plutôt bien démarré avec l'ouverture des portes à 10h pour cette première journée. Une journée qui a démarré en douceur, forcément on est vendredi donc le grand public n'est pas au rendez-vous ce jour-là mais plutôt ce week-end. Avec un beau soleil ce matin, malgré tout la pluie s'est installée donc depuis quelques heures sur le territoire de la Champagne, ce qui empêche un petit peu le bon déroulement de cette foire. Mais on croise les doigts, Alexis, le temps sera au rendez-vous ce week-end avec un public nombreux.
Christopher, que retrouve-t-on dans cette première foire champenoise ?
Eh bien Alexis, on va retrouver beaucoup de choses pour cette première foire. Alors que c'est une première foire, on retrouvera 4 villages d'exposition autour de l'artisanat, du bien-être, de la gastronomie, de la viticulture, de la rénovation et de l'habitat. Sans oublier les vins et spiritueux, en parallèle des animations pour les petits et pour les grands. On n'oublie personne ici à Dormans avec des animations pour enfants, la visite de la mini-ferme pédagogique, des conférences sur diverses thématiques, sur le bien-être, de l'habitat, de la viticulture. Culture, des démonstrations culinaires, la chasse au trésor également ce week-end avec des lots pétillants, des animations et déambulations et enfin des démonstrations d'artisans et enfin les concerts tous les soirs. D'ailleurs en ce moment la scène musicale ouverte depuis quelques minutes, ça va se poursuivre juste après avec du pop. On retrouvera du pop rock demain soir et du pop folk dimanche soir avec la chanteuse marnaise Silda qui fera son apparition du côté de Dormans. Et on n'oublie pas la fête des mères ce dimanche avec des animations spéciales fêtes des mères et la bourse aux capsules.
Merci Christopher, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous depuis Dormans. Très bonne foire champenoise à vous.
Le 18-19 sur RCF.
Le vendredi, on donne la parole aux évêques dans le magazine régional. Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, était avec Jean-Pierre ce matin sur RCF France Ardennes.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
On vous accueille avec beaucoup de plaisir et de joie. J'allais dire avec les bonnes ondes de la Pentecôte qui ne nous ont pas vraiment quittés.
Oui, je pense que pour moi, et puis pour, j'espère pour tout le diocèse, on est encore vraiment marqué, on est sur l'élan de la Pentecôte, de l'Esprit Saint. Sans vouloir commencer à 7h du matin avec un grand exposé de théologie, c'est vrai que de comprendre qui est l'Esprit Saint permet de saisir ce qui s'est passé. Il y avait un théologien allemand qui disait « Le Père, c'est Dieu devant nous, au-delà de nous ». Celui qu'on contemple, le Fils, c'est Dieu à côté de nous, l'Emmanuel, celui qui marche avec nous. Emmanuel en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. Et l'Esprit, c'est Dieu en nous, au plus profond de nous. Et donc l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui, du fin fond de notre cœur, nous pousse en avant, nous inspire.
Et pousser en avant, vous l'avez eu l'occasion de le faire, d'ailleurs, avec la marche des évêques pour les vocations. Vous avez vécu là, Monseigneur Étienne Véteux, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, de grands moments.
Je pense que c'était un des plus grands moments de ces derniers temps dans le diocèse, effectivement. Nous avons donc marché, les deux évêques, ensemble. On a fait du nord au sud du diocèse en 5 jours, à peu près 80 kilomètres. Et puis, beaucoup nous rejoignaient, parfois 25, 30, 40. Le mercredi à Neuvisy, 160 personnes ont marché avec nous. Et là, je dirais, il y avait un esprit à la fois de prière et prière avec le corps. J'ai redécouvert à quel point c'était important de prier avec son corps en marchant dans la nature. Et puis, un esprit très fraternel. Des rencontres assez extraordinaires. On a beaucoup plus de temps pour parler avec les gens en marchant avec eux que sur le pas de porte d'une église, par exemple.
Et puis même, Monseigneur, vous avez été accueilli chez des personnes, des diocésains, qui étaient sans doute très heureux, très fiers aussi de vous accueillir, de vous recevoir.
Absolument. On a eu une hospitalité magnifique, esprit d'hospitalité, où chaque soir, nous étions logés chez l'habitant et des personnes très différentes. Et puis, comme on passait une bonne partie de la soirée ensemble, des possibilités de partage vraiment très profond sur la vie de chacun. J'ai l'impression de connaître des personnes à différents endroits du diocèse à travers ces rencontres.
Et puis au terme de cette marche des évêques des vocations, une rencontre à Reims où les 7 diocèses se sont retrouvés. Là aussi, c'était un grand moment.
Là aussi, l'Esprit Saint a soufflé. Esprit d'audace ou de créativité, je pense, pour nos évêques. Je dis nos évêques parce que j'étais pas encore dans l'organisation, même si j'étais dans la réalisation. Nos évêques qui ont eu l'audace de penser que les sept diocèses pouvaient se retrouver à Reims ensemble, après avoir marché chacun de leur côté, et prier pour les vocations. L'idée, c'était de mettre nos forces ensemble pour prier pour les vocations. Et les sept cheminements des diocèses me font penser que c'est comme un écho du fait que chaque chemin de vocation est unique, que chacun d'entre nous a un chemin très très personnalisé sur lequel l'Esprit nous conduit pour trouver quelle est notre vocation, c'est-à-dire au fond, quelle est notre place vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'histoire, et de croire vraiment que chacun de nous a cette place.
Quelques jours plus tard, Mgr Étienne Vetteux, il y a évidemment la Pentecôte avec les confirmations, là aussi, un grand moment.
Magnifique. J'ai eu la chance pour ma part de célébrer des confirmations le samedi matin de Pentecôte, puis à Saint-Valfroy, alors là une quinzaine de jeunes, puis dans l'après-midi à Saint-Jacques, un peu plus de 50 jeunes d'école et d'autres espaces missionnaires. Le soir, une longue et magnifique veillée de la Pentecôte, vigile de la Pentecôte avec Adaltum à Saint-Maurice. Et puis le lendemain, il y a eu des confirmations d'adultes à la cathédrale, plus de 110 confirmants. Je sais que, si je reviens en arrière, l'archevêque lui aussi a célébré plus de 100 confirmations le samedi matin. Quand on lit les lettres des confirmants, on est touché par la qualité de ces lettres et on se dit l'Esprit Saint pousse des jeunes aujourd'hui encore en 2024 à se donner, à entrer en relation avec le Christ. Et pour les adultes, c'est encore plus marquant parce que souvent ils n'ont pas été éduqués dans la foi et quelque chose a fait dans leur vie qu'ils se sont rendus compte de l'importance d'une transcendance. Ils ont croisé Jésus, soit dans des obsèques de parents, soit en entrant dans une belle église. Et on sent que l'Esprit Saint continue à appeler.
Ici, on poursuit dans le calendrier, dans ce même esprit d'un souffle porteur. Il y a eu, bien entendu, le pèlerinage diocésain au lac de Béron. Là aussi, on peut dire, l'Esprit-Saint était au rendez-vous.
Alors peut-être que je peux ajouter quelque chose, en fait. C'est que dans la même période de la Pentecôte, j'ai eu la chance de célébrer, présider mes premières ordinations presbytérales. Ça peut être lié aussi aux confirmations, parce que il y a la même démarche de jeunes. Là, c'était trois jeunes hommes qui sont devenus prêtres. En plus, c'était des jeunes que je connaissais, que j'avais moi-même formés. Donc, je voyais le fruit de ce travail. Mais il y a quelque chose d'absolument extraordinaire de voir trois personnes très, très différentes, mais qui s'engageaient à devenir prêtres au service de l'Église, avec une joie formidable.
C'était dans un autre diocèse.
C'était à Évry, et c'était pour la communauté du Chemin Neuf.
Alors, effectivement, les ordinations, puis le lac de Béron, c'est quand même ça a été un grand moment. Hein.
Oui, le lac de Béron a été très fort. Nous avons marché pendant la journée par petits groupes, prié, médité tout autour du lac, un peu comme Tibériade, le lac de Tibériade chez nous. La Galilée chez nous est terminée par une très très belle messe d'envoi. Moi, je suis frappé ici par à la fois l'esprit d'unité ou de famille. On a rencontré des personnes de tout le diocèse. C'est comme si c'était un moment où le diocèse se constituait. Il est déjà constitué, mais comme si les Ardennes, la Champagne, la ville de Reims se retrouvaient ensemble et disaient « mais nous sommes vraiment une même famille ». Et en tout cas, l'Esprit Saint est capable de nous unir en une famille. Et puis la joie. Esprit de joie, je pense que n'importe qui nous voyait de l'extérieur aurait pu s'arrêter et dire « ah, j'aimerais être joyeux comme ces gens sont joyeux, quel est le secret de leur joie ?»
Alors c'est vrai que tout cela se prolonge aujourd'hui dans votre agenda, dans les rencontres que vous allez faire dans les prochains jours. D'ailleurs, des rencontres d'évêques vont se poursuivre tout prochainement, dans les jours prochains.
C'est ça. Nous avons régulièrement des rencontres des sept évêques plus un administrateur pour le diocèse de Chalon. Et la prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine à Saint-Thierry.
Et les prêtres du diocèse aussi, bien entendu, vous allez les rencontrer de façon un peu particulière dans quelques jours.
La semaine d'après, pendant 3 jours à Saint-Valfroid, c'est vrai que je suis frappé en arrivant dans le diocèse de la qualité de relation entre les prêtres ici. Ils sont très différents de personnes et puis parfois de manières de vivre la foi et la pastorale. Mais dans d'autres endroits que j'ai connus, ces différences parfois portaient à des tensions. Ici, probablement parce que les prêtres se retrouvent souvent, il y a un esprit de fraternité, de respect mutuel qui me console en fait.
Et puis c'est dans le diocèse voisin, mais hier vous étiez à Châlons-en-Champagne, où vous avez pu rencontrer aussi des jeunes.
Alors ça fait partie de mes tâches. J'étais dans une école catholique, Notre-Dame Périer, un collège, et j'ai parlé à peu près 200 jeunes de 6e. De mon parcours et puis après répondu à toutes les questions possibles et imaginables qu'ils avaient. Vous imaginez que des jeunes de cet âge-là ont vraiment beaucoup de questions.
On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver, Monseigneur Étienne Vetteux. On peut dire qu'avec tous ces parcours, vous souhaitez à nos diocésains ce matin, de cette famille diocésaine, de toujours vivre dans l'intérieur d'eux-mêmes de l'esprit dont vous nous parlez.
Voilà, esprit d'unité, esprit de joie.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour terminer cette émission, ce vendredi soir, on parle de la restauration de l'orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. L'association des Amis des Orgues de Chalon organise plusieurs concerts avant l'été. Élodie Marchal et Étienne Touvenin sont avec Christopher.
Bonjour Élodie Marchal.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association des Amis des Orgues de Châlons-Champagne. Merci d'être avec nous dans le studio de RCF Cœur de Champagne, accompagné d'Étienne Touvenin, l'un des vice-présidents de l'association. Bonjour.
Oui, bonjour.
Je précise, l'un des vice-présidents, parce qu'il y en a un autre qu'on peut d'ailleurs citer, Étienne.
C'est Philippe Lacombe.
Voilà, Philippe Lacombe, donc qu'on le salue à travers les ondes de RCF. Avec vous, on va présenter les 3 rendez-vous, 3 concerts que vous allez organiser avant l'été. Ce sera le 25 mai à la cathédrale Saint-Étienne, le second le 4 juin à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux et le troisième le 23 juin toujours à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Ces 3 rendez-vous au profit de la restauration de l'orgue de la collégiale. Avant de parler de ces 3 concerts, du programme, de ce qu'on va y retrouver, est-ce qu'on peut faire un petit rappel, Élodie Marchal, sur l'association des Amis des Orgues de Châlons-Champagne qui date déjà, puisque vous êtes présidente depuis déjà une bonne 15aine d'années.
Oui, moi je suis présidente depuis tout ce temps, mais il y en a eu d'autres avant moi. L'association a vu le jour en 1976 avec Annie Zimmermann, l'organiste de cette époque, et elle vit toujours encore maintenant. Nous avons pour objectif de faire vivre tous les orgues de la ville, en sachant qu'il y en a quand même 13, dont certains sont muets malheureusement, mais bon, on essaye de faire notre maximum pour entretenir, pour faire vivre, pour faire connaître aussi tous ces instruments. Donc par l'organisation de concerts, de visites tout simplement.
Alors voilà. Quand vous dites faire vivre justement du mieux que possible les orgues, on disait les orgues, certains, voilà, il y a des orgues qui sont muets à Châlons-en-Champagne. Donc vous organisez des concerts au profit de la restauration.
Oui.
Vos autres actions, c'est éventuellement de toquer à la porte de la municipalité pour dire au secours, on a besoin d'aide justement, une aide financière pour avancer sur la restauration des orgues.
Oui, bah justement, c'est ce qu'on a fait pour l'orgue de Notre-Dame-en-Vaux.
Oui.
Voilà. Oui, parce qu'actuellement, on ne peut plus le jouer du tout. Et cet orgue est très intéressant à plusieurs titres, hein, mais notamment, il n'y en a que 3 en France dans ce style-là. Les 2 autres ne sont pas en état actuellement non plus. Donc, ce serait vraiment intéressant pour notre ville d'avoir l'ensemble orgue de chœur et orgue de tribune, car les 2 fonctionnent ensemble. Et c'était hyper novateur pour l'époque. De la part du facteur d'orgue Merclin, c'était vraiment, c'était super. Donc, ce serait vraiment très très bien si on arrivait à aboutir à cette restauration. Donc, nous sommes allés toquer à la porte de la mairie, effectivement, déjà pour les sensibiliser.
Bien sûr.
Et puis, le dossier est en marche, donc il faut laisser le temps au temps.
On croise les doigts, en tout cas, pour vous et puis pour ces orgues hein, qui ont un grand besoin d'être restaurés, d'être rénovés, dont l'orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne. Étienne Touvenin, un petit mot en tant que vice-président. Donc, on le disait, depuis maintenant plus de 6 ans, c'est ça ?
Plus de 6 ans, oui, depuis 2018, oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'aventure des Amis des Orgues de Châlons-Champagne? Vous êtes un passionné de cet instrument?
Bah, plutôt passionné de l'instrument, oui. Avec la technique, les tuyaux, les trucs qui bougent dedans et comment l'air arrive dans les tuyaux, c'est très intéressant. C'est intéressant de voir la technicité qu'il y avait à la fin du 19e siècle sur des instruments tels que ceux-ci, quoi.
Oui. Alors, 3 concerts seront organisés avant l'été par les Amis des Orgues de Châlons-Champagne. Le premier, Lodi Marshall, ce sera le samedi 25 mai à la cathédrale Saint-Étienne à 18h.
Oui, exactement, avec Marc Pinardel. Donc, c'est un concert d'improvisation. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas proposé de concert d'improvisation à la cathédrale. En fait, le public sera amené à faire des propositions à l'entrée, des idées, tout ce qui vous passe par la tête, une peinture, un livre, je sais pas, une idée, n'importe quoi.
D'accord.
Ensuite, tous ces papiers lui seront transmis et il improvisera dessus. Donc ça peut être aussi un thème de musique de film, de n'importe quoi. Oui. Voilà, donc son épouse Agnès Pinardel sera aussi de partie prenante. Et alors j'ai hâte d'entendre, car il m'a expliqué qu'ils avaient l'habitude d'improviser tous les deux, donc lui en tribune.
D'accord.
Et elle déambulant dans la nef.
C'est la première fois que vous organisez un concert, on peut dire, d'improvisation, parce que...
Alors non, improvisation, on a déjà fait. On a d'ailleurs fait un match d'improvisation. C'était aussi super. Il y avait 6 improvisateurs qui se répondaient chacun. Donc à chaque fois, ils avaient des thèmes. Ça, c'est aussi vraiment une très belle expérience. Là, c'est un peu différent parce qu'il sera seul au clavier.
Et... Mais il y aura plein de propositions à l'entrée.
Oui, oui. Et alors, lui, on l'a déjà invité, Marc. C'était à Saint-Loup.
En 2019.
Oui, 2019, en 2019. D'accord. Et il avait improvisé sur 2 films. Voilà, ce sera encore un autre format. Là, il n'y aura pas de film, ce sera encore autre chose.
Impressionnant. En tout cas, on invite nos auditeurs à s'y rendre, à ce rendez-vous, on le rappelle, le samedi 25 mai à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne à 18h. Le deuxième rendez-vous, ce sera début juin, le 4 juin, 19h, à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Étienne Touvenin.
Oui, j'ai été contacté par une association anglaise qui s'appelle One Stage. Et qui nous avait déjà demandé de recevoir des chorales. Donc on avait reçu une chorale l'année dernière de 60 choristes le 18 août à Saint-Alpin. Et là, ils m'ont demandé si on était d'accord pour recevoir une chorale d'hommes le 4 ou le 5 juin 2024. Mmh. Si une chorale pouvait recevoir une autre chorale. Donc dans le cadre de l'organisation, comme je fais partie des Amis des Orgues et aussi de la chorale d'hommes Harmonia de Châlons-Champagne.
Oui.
Donc la chorale d'hommes Harmonia viendra aussi chanter. On aura 2 chants communs avec ce chœur d'hommes américain, donc de 40 personnes, le Minot Heritage Singers, qui viendra donc faire un concert avec nous dans le cadre d'un voyage qu'ils font pour visiter la Champagne.
D'accord. C'est une première?
Ben, pour eux, oui.
Oui, c'est une première.
Puis pour nous aussi, un mélange de 2 chorales. On va être à peu près 60 choristes, 60 hommes.
D'accord.
60 hommes à chanter. Et nous, pour la petite histoire, nous sommes une quinzaine, 15-18, dirigés par une femme.
Oui, on peut peut-être la citer, c'est Dominique Taboureau.
Tout à fait. Donc le rendez-vous, 4 juin, on le rappelle, Étienne Touvenin, 19h.
Donc le 4 juin, 19h, oui.
À la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-Champagne. Et on termine avec ce dernier rendez-vous, Élodie Marshall, le 23 juin, toujours à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-Champagne. Mais cette fois-ci, c'est avec les amis de Jean Talon.
Oui, tout à fait. C'est en l'honneur donc du retour de la statue qu'on espère revenu. Donc ce sera pour la réhabilitation de la place de l'îlot Notre-Dame. Donc en cet honneur, nous avons prévu un concert donc à Notre-Dame avec flûte traversière, violon, violoncelle et orgue. Ce sera donc un répertoire du 17e ou tout début 18e siècle.
D'accord.
Donc en fait de la période de Jean Talon. Donc à la flûte traversière, il y aura Claire Hertz, au violon Gabriel Michel, au violoncelle Marie Chardenoux et moi-même à l'orgue. Nous avons prévu des œuvres de Marin Marais, Purcell, Vivaldi, Handel, Telemann, Rameau, enfin voilà, que des noms connus.
Donc le rendez-vous, 23 juin, 20h, collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-Champagne. Étienne Douvenin.
En parallèle, il y aura une exposition sur Jean Talon qui sera dans la collégiale.
D'accord.
Et Monsieur Carillo, le sculpteur, fera une petite présentation de la statue qu'il est en train de restaurer, et ainsi de suite. Voilà.
Découverte de la statue, exposition et concert. Un très beau rendez-vous le 23 juin à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne. L'entrée de ces concerts, donc, libre, avec participation aux frais. Et on rappelle, hein, ces trois rendez-vous, c'est pour la restauration de l'orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux.
Tout à fait, toujours.
Le 23 juin, ce sera à 20h.
23 juin, 20h à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Merci Elodie Marchal, présidente des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne. Et merci également Étienne Souvenin, vice-président de l'association chalonnaise. À très bientôt.
Merci.
À bientôt.
Une interview à retrouver en podcast sur le site rcf.fr dans la rubrique programme, comme l'ensemble de ce magazine régional de 18-19 en Champagne. Vous pouvez retrouver ce numéro ou bien d'autres. Et puis, n'oubliez pas, avant de vous souhaiter un bon week-end, que dimanche, on fêtera la fête des mères. Donc, une pensée à toutes nos mamans. Ilona, vous aussi, vous pensez à votre maman avant
oui,
ce week-end?
Toujours, oui.
Eh bien, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous jusqu'à 19h. On se retrouve lundi, 18h10, pour le magazine régional et dès 7h avec vos différentes rédactions locales. Dans quelques instants, c'est l'information nationale avec le réseau RCF. Nous, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. À lundi!